monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Quand on défrontière, le commerce mondialise, que sous sa bannière, toutes les nations agonisent. Quand pour seule culture, c'est le règne de l'argent, que sans fioriture, on vit rationnellement. Dans ce monde épanoui, libéral son parti pris, où l'argent nous réunit, moi je me dis. Tout le monde il est beau, le commerce réjouit.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce soir, nous accueillons Elena Rouskin, journaliste à l'ONU.
Bonjour.
Bonjour, qui va s'entretenir avec Melik du CETIM, qui est un organisme qui travaille pour mettre en place un traité contraignant à l'égard des multinationales. Alors, sans plus attendre, je vous laisse avec Elena Rouskin et Melik, mais c'est Elena qui va s'entretenir avec lui au sujet de ce traité contraignant.
Oui, bonjour Melik.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous.
Merci à vous.
J'aimerais bien commencer notre entretien peut-être avec une petite explication du CETIM. Tu travailles pour le CETIM, qu'est-ce que c'est ?
En deux mots, le CETIM est un centre de recherche et de publication sur les relations Nord-Sud. Il dispose d'un statut consultatif auprès de l'ONU qui lui permet d'intervenir justement dans ce cadre. Donc le CETIM travaille sur la question du développement, pour qui, pourquoi, comment. Parmi les thématiques traitées dans ces publications, il y a la question de la mondialisation de la question de la dette extérieure, qui a un impact sur le plan social, économique, dans beaucoup de pays, et aussi la question évidemment des transnationales, ces entités puissantes qui posent énormément de problèmes depuis plusieurs décennies déjà. Donc le CETIM a fait un de ses chevaux de bataille donc, sur cette question. Et dans le cadre de l'ONU, donc, nous intervenons à la fois pour promouvoir donc, les droits économiques, sociaux et culturels dans ce cadre-là où on travaille. Et puis quand on est sollicité par nos partenaires dénoncer certaines violations de droits de l'homme, et aussi faire du plaidoyer, c'est-à-dire que, en ce qui concerne les sociétés transnationales, c'est d'obtenir un traité contraignant pour réguler les activités de ces entités. Et en parallèle, nous avons travaillé jusqu'à l'année dernière pour l'obtention d'une déclaration sur les droits des paysans. Donc, okay. Ça s'est fait. Maintenant, la deuxième étape, c'est la mise en œuvre.
Ouais.
Voilà. En gros, ce que le CETIM fait, il faut préciser que son statut, c'est un statut d'association à but non lucratif.
OK. OK, merci beaucoup. Tu parles de transnational. Est-ce que tu pourrais peut-être brièvement éclaircir le mot transnational? Des fois, on entend transnational, des fois, on entend multinational. Est-ce que tu pourrais juste clarifier cette
distinction? Oui, bien sûr. C'est que quand on dit multinational, on a l'image d'une entité qui est composée de plusieurs nationalités. Il est vrai, ça peut arriver dans la structure organisationnelle d'une entité économique, il peut y avoir plusieurs nationalités. Mais nous préférons le terme de transnational parce que quand on est multinational, on peut penser que à plusieurs nationalités, cette entité n'est pas liée à un État ou un pays, un territoire donné. Et il est vrai que ces entités qui ont une activité donc à travers des frontières et sont toujours rattaché, disons, à un État puissants qui défendent leurs intérêts, que ce soit au niveau diplomatique, économique, politique. Le terme qu'on préfère pour clarifier les choses, ces entités sont à la fois de nos jours au-dessus des États,
oui,
puisqu'elles sont à la fois partout et nulle part, en raison de montages juridiques très très complexes. Elles échappent à tout contrôle politique et juridique. C'est pour ça qu'il faut regarder de près comment fonctionnent ces entités. Donc nous avons choisi justement ce terme de transnational au lieu de multinational. D'ailleurs, cette terminologie est aussi adoptée par l'ONU. Donc, okay, au sein de l'ONU, dans différents organes de l'ONU, on préfère le terme transnational que multinational.
Ok, ça, c'était très clair. Et puis, à propos du coup des entreprises transnationales, un des objectifs des processus qui est en train d'œuvrer le CETIM, c'est celui d'un traité contraignant ici au sein des Nations Unies. Est-ce que tu pourrais mieux nous expliquer la structure, le cadre de ce traité? Qu'est-ce que c'est, le traité contraignant?
Alors, peut-être très rapidement un peu d'historique. Donc, la question des transnationales, les problèmes posés plus précisément par ces entités très puissantes, préoccupent déjà l'agenda de l'ONU à l'échelle internationale depuis presque 50 ans. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, ce n'a pas été possible d'adopter des règles contraignantes sur ces entités. Pourquoi? D'un côté, vous avez un lobby très puissant de ces entités, et de l'autre côté, des défenseurs de ces entités, malheureusement, très souvent, c'est des États occidentaux qui ont empêché jusqu'ici l'adoption des règles contraignantes. Donc d'abord, juste pour exemple, au sein de l'ECOSOC, dans les années 70, il y a eu discussion, et au début des années 90, pendant 20 ans, il y a eu discussion dans une commission intergouvernementale pour adopter un code de conduite contraignant sur ces entités, mais malheureusement, ça a été mis dans un tiroir au début des années 90 suite au changement politique dans différentes parties du monde. Ensuite, le CETIM a lancé une initiative avec une association de juristes au sein de l'ONU pour obtenir, sous l'angle des droits humains, des règles contraignantes sur ces entités. Là-dessus aussi, nous avons travaillé pendant presque une dizaine d'années, mais de nouveau, suite à la mobilisation de lobbies puissants de ces entités et puis des États occidentaux, ces normes ont été mises dans un tiroir. Maintenant, pour revenir au traité contraignant que vous évoquez, cette initiative a été lancée en 2013-2014, à l'initiative de l'Afrique du Sud et l'Équateur. Nous avons naturellement appuyé cette initiative. L'idée était d'avoir un traité contraignant sur les sociétés transnationales qui violent les droits humains partout dans le monde.
Oui.
Alors, en 2014, donc, il y a une résolution qui a été adoptée au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Cette résolution donne le mandat à un groupe de travail intergouvernemental pour élaborer, je vais vous citer juste le titre officiel, élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme. Donc, évidemment, ça n'a pas été facile, l'obtention de ce mandat, puisqu'il y avait toujours des lobbies, mais il y a eu une courte majorité, grâce à une courte majorité, cette résolution a adoptée et le groupe de travail a été mis en place. Quand on est un groupe de travail, pour précision pour vos auditeurs, c'est que tous les États membres de l'ONU peuvent participer.
Oui.
Donc, ils peuvent être là ou pas, mais ils ont le droit de participer aux négociations sur ce dossier-là. Donc, jusqu'à présent, il y a eu 4 sessions de ce groupe de travail, mais comme sur la table, il n'y avait aucun projet de traité, donc il a fallu, conformément à la résolution adoptée, hein, c'est la résolution 26/9,
ouais,
pour être précis, conformément à cette résolution, le groupe de travail a organisé des débats pendant les premières sessions pour dire, voilà, quel sera le contenu, la portée, la forme de ce futur traité. Alors, suite à ces discussions, il y a eu d'abord un document d'éléments qui a été présenté par la présidence de ce groupe de travail, assuré par l'Équateur actuellement. Et l'année dernière, nous avons reçu, donc, pendant la 4e session, un projet de convention qui a été présenté pour la discussion. Donc le processus est en cours, mais en même temps très difficile. Je ne sais pas si je dois continuer ou pas. Les enjeux, les positions des uns et des autres, le contenu, etc.
La question qui pourrait peut-être aussi être intéressante qu'on s'était posée à un moment donné, c'était de savoir si vous pensiez qu'il pouvait y avoir une synergie potentielle entre l'initiative des multinationales responsables en Suisse, dont on peut supposer qu'elle est quand même assez consensuelle et, voilà, disons, légère, et puis ce traité contraignant qui quand même donne une autre couleur à l'écoute. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une synergie possible entre ces deux choses, puisque dans le temps, finalement, il y a une coïncidence, quoi?
Oui, à l'évidence, oui. Parce que quand on élabore une convention, un traité à l'échelle internationale, ensuite, les États qui ratifient, bien entendu, hein, parce que quand on parle de traité ou convention, une fois élaboré, les États doivent ratifier. Et une fois ratifié, donc normalement, le texte adopté doit être mis en œuvre. Pas seulement à l'échelle internationale, mais à l'échelle nationale. Okay. Donc l'échelle nationale est très très importante. Pourquoi ? Parce que, si on peut comparer au système juridique dans différents pays, c'est la première instance. C'est le premier niveau où on doit agir, c'est-à-dire que les victimes d'une violation quelconque, des violations commises par des sociétés transnationales. Donc, les victimes doivent pouvoir s'adresser tout d'abord à un tribunal national, local ou national. Mais pour X raisons, si à ce niveau-là, ça ne marche pas, il faut avoir un mécanisme à l'échelle internationale pour que les victimes puissent s'adresser pour qu'on puisse lutter ce qu'on appelle l'impunité de ces entités, parce qu'à l'heure actuelle, ces entités vraiment échappent à tout contrôle politique et juridique, et grâce à leur puissance, elles arrivent à négocier des accords avec les États hors de
tout cadre. Ou des choses comme ça, quoi.
Tout à fait. Ouais, tout à, même ce qu'on appelle les accords bilatéraux d'investissement, par exemple, elles arrivent à obtenir des privilèges qu'on n'accorderait pas à d'autres entités. Et grâce à ça, évidemment, elles échappent aussi à la juridiction nationale, bien souvent.
Donc, si je comprends bien, ça veut dire, on peut dire que la synergie, c'est que finalement, les États constituent, si on veut bien, quelque part, une porte d'entrée pour pouvoir poursuivre après à l'échelle internationale. C'est un peu ça.
Oui, tout à fait. Parce que, de toute façon, même si il faut voir, hein, pour le moment, on est encore au début du processus, les négociations, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et évidemment, il faut que le contenu du futur traité correspond un peu aux attentes des peuples, ce qu'on appelle des communautés affectées, des victimes de violations commises par ces entités. Mais au-delà de ça, disons qu'on a un document parfait. Première condition, il faut avoir un mécanisme d'application au niveau international.
Oui.
C'est extrêmement important qu'il soit opérationnel, qu'il soit fort. Voilà. Mais même, disons que le futur traité soit parfait, que ce, le futur mécanisme soit parfait, à l'échelle internationale, il ne sera pas possible de porter tous les cas. Pour une simple raison, si on se réfère à l'OCDE, par exemple, même si ça embrouille un peu les pistes, l'OCDE parle de 80 000 sociétés transnationales qui existent dans le monde.
Ok.
Bon, on a eu une étude, on a eu une étude il y a une dizaine d'années à Zurich, à l'école fédérale de Zurich, par des chercheurs. Eux, ils arrivent à ce qu'ils appellent un peu des entités, super entités. Ils arrivent à 300 quelques transnationales qui contrôlent tout au niveau mondial.
Donc 80 300, on passe de 80 000 à 300.
Oui, exactement. Okay. Exactement. Ça, c'est leur,
la fourchette.
Ouais. Leur, leur analyse et résultat de leur recherche. À l'évidence, on ne peut pas porter tous les cas. Regardez la Cour européenne des droits de l'homme est de facto paralysée. Oui. Dans certains pays, cette Cour reçoit des milliers, voire des dizaines de milliers de plaintes.
D'accord.
Donc, il y a problème du, évidemment du personnel, il y a problème financier, etc., du temps. Très souvent, les décisions tombent au bout de, je sais pas, minimum quelques années, et parfois 10 ans, voire plus. Alors, qui dit justice rendue tardivement n'est pas une justice. Ouais. Donc, ça, ça pose un problème réel.
Pas des problèmes de structure, finalement.
Non, c'est que, à l'échelle internationale, à l'évidence, on ne peut pas porter tous les cas nationaux. Donc, il faut qu'au niveau national,
oui,
la justice soit opérationnelle. Oui. Ce n'est pas le cas, malheureusement, dans tous les pays où un manque de volonté politique, donc on ne poursuit pas ces entités. C'est pour ça que c'est important d'avoir, à l'échelle internationale, un mécanisme de ce type pour permettre aux victimes, aux comités affectés par les violations commises par la société transnationale de s'adresser, d'avoir un mécanisme de recours. Ben déjà, l'existence, il faut quand même le dire, l'existence d'un tel mécanisme, ça sera dissuasif. Parce qu'à l'heure actuelle, à la fois ces entités et leurs dirigeants, ils sont à l'abri de toute poursuite ou de menace de poursuite.
Il n'y a aucun système juridique actuellement qui puisse porter en, en poursuite des transnationales.
Bon, mais non. Enfin, en théorie, c'est possible d'aller devant, enfin, en théorie, devant la Cour pénale internationale, mais pour des cas très restrictifs et limités.
Oui.
C'est-à-dire les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, etc., etc. C'est qu'il faut démontrer. Pour moi, c'est des cas vraiment assez complexes et assez, disons, selon une région ou pays donné, de massive.
Oui.
Et, là, il faut démontrer, premièrement, la violation commise par telle ou telle entité, ce qui n'est pas facile de remonter la chaîne de responsabilité, puisque, comme je disais au début, ces entités sont organisées de telle façon, avec des montages juridiques très complexes. Vous avez d'un côté la maison mère qui est enregistrée quelque part, même parfois dans 2 ou 3 pays, comme siège social. Hein. Ensuite, vous avez des filiales directement liées. Mais en plus de ça, vous avez des sous-traitants. Oui. Vous avez des preneurs de licence, etc., que dans le jargon, on appelle la chaîne de valeur.
Oui.
Donc, ça, c'est assez complexe pour remonter donc, cette chaîne de responsabilité pour inculper justement, pour poursuivre en justice ces entités. Donc du côté de la Cour pénale internationale, on a un autre obstacle à ce niveau-là. Les conseils de sécurité de l'ONU peuvent bloquer à tout moment toute poursuite, que ce soit contre un dirigeant politique ou un dirigeant d'une entreprise, etc., etc., qui est normalement, ce n'est pas vraiment prévu dans, son, dans ses compétences de poursuivre privé Mais si ça rentre justement dans les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ça serait entièrement possible, mais c'est assez, dans la pratique, c'est assez...
C'est rare.
Ça n'existe, pour le moment, ça n'existe pas.
Oui, ce traité, au final, un traité contraignant, il serait très utile dans ce sens.
Oui. Oui, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on lutte. Quand je dis on, nous avons donc un réseau de plus de 200 organisations regroupées au sein d'une campagne mondiale qui s'appelle la campagne mondiale pour revendiquer la souveraineté des peuples, démanteler le pouvoir des sociétés transnationales et mettre fin à leur impunité. Et donc nous avons à la fois des organisations de défense des victimes, nous avons des communautés affectées, nous avons des organisations des femmes, nous avons des syndicats, nous avons des organisations des paysans, etc., etc., qui sont représentées au sein de cette campagne. Et nous appuyons très fortement ce processus.
C'est des organisations qui viennent de partout dans le monde ?
Oui, sur tous les continents.
Okay.
Bon, il y a certains continents qui sont représentés plus que d'autres. Oui. Mais bon,
Et on peut toujours s'y intégrer s'il y aurait une organisation qui serait intéressée à faire part de la campagne.
Oui, à condition évidemment d'accepter. Nous avons une déclaration, une charte. Alors, on a notre ligne.
Oui.
Disons, politique par rapport à ce processus onusien qui est en train de négocier justement un traité sur les sociétés transnationales. Nous avons d'ailleurs publié en octobre 2017 notre propre traité. Pourquoi ? Parce que c'était la veille de la troisième session du groupe de travail. On a voulu anticiper et influencer un peu les négociations intergouvernementales. On a travaillé parce que notre principale préoccupation était de relayer à la fois les revendications de la base, à la fois les préoccupations, leur analyse de nos associations, nos organisations membres, et que ça prise en compte par les États. Et normalement, lors de la troisième session, on devait recevoir déjà un projet de traité, mais la présidence équatorienne a préféré de venir avec ce qu'on appelle un element paper, un document d'éléments pour la rédaction du futur traité.
Donc préparatoire, finalement.
Voilà, exactement. Okay. Exactement. Donc, en quelque sorte, notre papier, même si on n'a pas toujours respecté le jargon et le langage de l'ONU, en tout cas, notre papier reflète vraiment la position du terrain, disons, des gens qui sont confrontés tous les jours à des problèmes posés par les sociétés transnationales. Nous avons mis en forme, on a fait en trois langues, disponible à la fois sur notre site, le site du CETIM, à la fois sur le site de la campagne. On peut télécharger donc en anglais, en français, en espagnol. Ce papier, je pense que c'est, au-delà de jargon utilisé, c'est une source d'inspiration pour les États qui s'engagent en faveur de ce processus.
Et actuellement, et peut-être pour conclure, quels sont donc les enjeux actuels, la suite, disons, de ce processus ? Et quels pays sont là qui vous côtoient ? Où vous êtes en train d'aller, au fait ?
Alors, la principale difficulté, évidemment, c'est le soutien politique. Comme je disais au début, quand on a obtenu le mandat, il y avait une courte majorité au sein du Conseil des droits de l'homme. Ça, il faut reconnaître, il faut le dire. Et ce processus s'est combattu très fortement par les États-Unis et par l'Europe, et naturellement leurs alliés dans différentes régions du monde. Alors, comme vous le savez, les États-Unis sont en train de claquer la porte à toute structure multilatérale.
Donc, dans l'Europe
Les États-Unis.
Oui, mais
ils ont déjà quitté. Ils ont déjà quitté le Conseil des droits de l'homme officiellement.
Ah ben voilà. D'accord.
Ils sont pas là.
Ils sont pas là.
Et l'Europe a combattu pendant 4 ans pour bloquer les discussions sur ce dossier, voire dérailler ce processus. Et selon les échos que nous avons eus, finalement l'Union européenne ne participerait pas non plus à l'avenir. L'Union européenne, oui.
Ah ouais ?
Oui, c'est ce que nous avons eu comme information.
Pas de bonnes nouvelles.
Voilà. Évidemment, nous sommes en Suisse, pas besoin de dire, même si la Suisse ne monte pas au front très fortement, la Suisse aussi est contre. La Suisse est dans la salle, mais ne participe pas vraiment aux négociations, a déjà exprimé son opposition à ce processus.
Vous la qualifiez d'observatrice, presque.
Oui. Elle est dans la salle, disons. Ce n'est pas même ton qui est utilisé par les États-Unis ou par l'Union européenne, qui sont hostiles clairement, directement.
On ne va pas s'opposer à ça.
Mais la Suisse est là, mais sans participer vraiment, mais sans truc de principe, sa position de principe, c'est-à-dire on n'a pas besoin de ça. Donc, face à ça, qu'est-ce que nous faisons? Notre travail, évidemment, d'un côté, élargir notre base de soutien. Par exemple, on a lancé il y a quelques années un groupe de parlementaires au niveau mondial. On a organisé à Genève une réunion il y a 2 ans avec la participation d'une vingtaine ou trentaine d'élus de différents pays, aussi du Parlement européen, provenant de 20 pays dans le monde. Et puis le but est d'élargir, mais sachant que comme il y a des élections tout le temps, il y a des changements aussi sur un pays, etc. Mais notre stratégie, c'était à la fois de solliciter le soutien des élus, des exécutifs, des municipalités, des États, donc à tous les niveaux possibles, et avec nos organisations membres, d'organiser un travail d'information et de campagne dans différents pays, dans différentes régions et continents, de faire ce travail de sensibilisation et réunir, si possible, des soutiens politiques.
Mais ces élus dont vous parlez, ils bénéficient quand même d'une certaine écoute dans leur pays, où ils ont quand même une position un peu d'influence, ou est-ce que c'est des élus à titre symbolique, j'entends, pour vous, est-ce que ça peut vraiment vous aider?
Ben, ça dépend. Dans certains pays, oui, c'est des élus d'opposition. Dans d'autres pays, ils ont des connexions avec de l'exécutif, avec le gouvernement. Par exemple, du côté du Parlement européen, on a obtenu 2 fois, je crois, si je ne me trompe pas, une résolution du Parlement européen demandant à l'Union européenne de participer aux négociations. Évidemment, comme l'Union européenne est représentée par la Commission ici à Genève, donc la Commission fait sourd oreille.
En tout cas, merci beaucoup, Malik.
Merci à vous. On peut peut-être juste profiter avant de conclure pour donner le titre du traité dont vous parliez, si ça peut intéresser peut-être les auditeurs. C'est un ouvrage qui s'appelle « Traité sur les sociétés transnationales et leurs chaînes de valeur en matière de droits humains ». C'est donc un texte qui a été édité en octobre 2017 et que, quoi que comme il a dit, vous pouvez le télécharger, c'est ça?
Ouais.
Sur le site du CETIM.
Oui.
Ok, voilà.
Voilà, merci beaucoup encore pour cette intéressante discussion sur un traité contraignant au sein de l'ONU contre l'impunité des transnationales. Et merci beaucoup, Patrick, aussi.
Merci à vous d'être présenté aussi généreusement et d'avoir aussi bien défendu vos arguments, ce qui est très important.
Merci à vous deux.
Ainsi se termine ce billet. Nous vous souhaitons à tous une bonne soirée et à la semaine prochaine, sans doute. Au revoir tout le monde.
Au terme de ce billet, nous remercions Elena Ruska pour son interview de Melik Özden, directeur du CETIM, le Centre Europe Tiers-Monde. Nous remercions également l'équipe de Radio Django qui nous permet de poursuivre l'émission.
Hey, sei que sou, sempre fui, sempre serei. Oba, de um continente por se descobrir. Já alguns sinais estão aí, sempre a brotar do ar de um território que está por explodir.
À la conception, à la réalisation de cette thématique et à sa mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo. Rédacteur responsable, Patrick Rion. À la semaine prochaine.
Sim, bem em cima do barril, exato na zona de fronteira, eu improviso o Brasil. Hey, sei que sou, sempre fui, sempre serei. Oba, de continente por se descobrir. Já alguns sinais estão aí, sempre a brotar do ar de um território que está por explodir. Cabeça voa assim, acima de todas as montanhas e abismos do país. Mas algo chama a atenção, ninguém jamais canta duas vezes uma mesma canção. Kid de lua, paquim de lua, tchau, tchau, paquim de lua, sou não sou no que. Tchau, paquim de lua, kid de lua, paquim de lua, tchau, tchau, paquim de lua, sou não sou no paquim. O quinta mama sabulou, o quinta mama sabulou, e um bano que no baú. Hey, sei que sou, sempre fui, sempre serei.